Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bienvenue à vous toutes et vous tous qui nous rejoignez pour votre nouveau carnet de région, le magazine hebdomadaire et collaboratif préparé et proposé par l'ensemble des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, la rédaction en chef est assurée par Radio Intervalle, la radio des Cévennes. Au sommaire de cette édition, Radio Aviva nous annonce la tenue d'un petit déjeuner d'information sur les formations en alternance qui aura lieu le 5 mai à l'IUT de Montpellier 7. Nous nous rendrons ensuite à Carcassonne où 30 prestataires de tourisme ont inauguré un nouveau point info achat visant à améliorer l'accueil des touristes dans la cité. Un reportage de Radio RCF Pays d'Aude. Radio Gris Ouverte nous propose de creuser le sujet du RSI qui, après à peine 10 ans de service, est déjà sur le point d'être réformé. Le patrimoine des Cévennes à l'étude par deux étudiants en master, c'est du côté de deux communes gardoises et c'est un sujet proposé par Radio Escapade. Et pour terminer ce carnet de région, nous irons du côté de Montpellier avec Radio RCF Maguelone-Hérault qui nous fait découvrir les futurs conseils de quartier de la ville qui se met à l'heure de la démocratie participative.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le recours aux formations en alternance connaît un essor important en France depuis plusieurs années maintenant, un mouvement que différents organismes tentent de suivre en Languedoc-Roussillon. C'est le cas de l'IUT Montpellier 7 qui propose un panel de formations dans différents domaines. Pour informer le public sur ces formations, l'IUT propose le 5 mai prochain au matin un immense petit déjeuner. L'occasion pour les candidats à l'alternance de rencontrer d'autres étudiants, mais aussi des formateurs ou des employeurs. Radio Aviva a joint par téléphone Christophe Chéza, directeur adjoint de l'IUT de Montpellier 7. Il revient d'abord sur la difficulté première rencontrée par les candidats à l'alternance, trouver un employeur. Christophe Chézard répond à Gilles Geoffrey.
Au niveau de l'alternance, le point le plus délicat, pas difficile mais délicat, c'est évidemment la correspondance entre la demande et le nombre d'entreprises présentes sur le marché. Pour ce qui nous concerne en tout cas, peut-être aussi de par notre réseau et notre ancienneté, les étudiants généralement arrivent à trouver, ce qui est certain, c'est que la conjoncture actuelle depuis 2 ans, on le remarque, c'est considérablement densifié et c'est plus délicat. Mais jusqu'à maintenant, on arrive à suivre à peu près.
Christophe Chessa, on est dans une région au taux de chômage important, particulièrement chez les jeunes. Est-ce que l'alternance peut être une partie de la solution au problème de l'emploi dans la région ?
Bien évidemment, étant donné que vous pouvez voir le jeune évoluer sur 1 an pour ce qui est des licences professionnelles ou 2 ans pour ce qui est du DUT. Donc ça, c'est un sacré argument. Maintenant, il y a aussi le revers de la médaille, c'est que les entreprises, parfois, ne veulent pas s'engager sur une période de 2 ans. Autre argument singulier, c'est le fait que l'entreprise va arriver à former le jeune, puisque dans un contrat d'alternance, il y a une partie qui se fait, on a le même diplôme avec moins de temps au sein de l'établissement, donc ça veut dire qu'il y a une partie de la formation qui se fait en entreprise. Et donc, ça veut dire, au niveau de l'entreprise, la possibilité de préparer le jeune aux valeurs de l'entreprise.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Alors, on rappelle le 5 mai, parlons-en maintenant, cet immense petit déjeuner organisé par l'IUT, dont vous êtes directeur adjoint, et l'association Alter & Go. Quel est le but de l'événement? Que va-t-il se passer et où est-ce que ça se passe?
Alter & Go, présidé par Grégory Franck, qui est un étudiant actuellement en DUT alternance, en technique de commercialisation, est une association donc qui a pour objet de développer justement l'alternance spécifiquement au niveau du département technique de commercialisation. Ça se déroulera au sein de l'IUT, donc 99 avenue Occitanie, à Montpellier. Et donc l'objectif, ce sera de faire venir, de proposer une rencontre conviviale à des entreprises qui sont susceptibles de prendre ou qui ont déjà pris des jeunes en alternance, et de leur présenter le cursus et de répondre évidemment à leurs attentes en proposant l'idée d'un job dating, alors soit selon le volume qu'il y aura le jour même, soit à l'issue, sous forme d'un rendez-vous qui aura lieu plus tard.
Alors c'est un déjeuner, donc il faut venir bien habillé, on peut y trouver un employeur.
Oui, il y a cette idée-là. Hein. Et en tout cas, également, on peut y trouver des cas concrets, entre guillemets, de jeunes qui y sont et qui pourront raconter leurs expériences. Et en même temps, c'est l'idée de mutualiser et de partager les expériences au niveau des entreprises et forcément des jeunes.
Christophe Chéza, directeur adjoint de l'IUT Montpellier 7, qui répondait à Gilles Geoffrey pour Radio Aviva. Pour rappel, ce petit déjeuner autour de l'alternance aura lieu le 5 mai prochain dans les locaux de l'IUT à Montpellier dès 8h45. L'accueil des touristes dans la cité de Carcassonne était-il à améliorer ? Il faut croire que oui, avec la récente inauguration d'un tout nouveau point info achat qui est porté par 30 prestataires au doigt.
Vendredi 17 avril dernier, au cœur de la cité de Carcassonne, juste en face du château Comtal, était inaugurée l'agence Autour de Carcassonne. Qu'est-ce que c'est exactement ? Explication de Marie Calais, une des initiatrices de ce projet.
Donc il s'agit d'un point d'information touristique, mais surtout de commercialisation de 30 prestataires qui sont situés un peu partout dans le département de l'Aude, mais essentiellement dans le pays carcassonnais, et qui se sont réunis pour pouvoir commercialiser donc leur offre auprès des visiteurs de la cité, parce que jusqu'à présent, les visiteurs passaient dans la cité, mais n'avaient pas d'informations sur ce qui se passait autour de la cité, et notamment dans la Montagne Noire, ou dans le pays Corbière-Minervois, ou dans la Haute-Vallée. Bon, alors il n'y a pas de base juridique, c'est-à-dire en fait c'est la SIC Sud-France qui est une coopérative qui a pris en charge tout le montage du projet pour le compte des prestataires. Donc c'est situé 5 places du château, c'est la place qu'on trouve tout de suite en arrivant quand on monte depuis la porte Narbonnaise. Hein, voilà, c'est cette place-là. Donc on ne peut pas nous rater parce qu'on est juste en face. Donc, voilà. On a un site internet qui s'appelle visiteux avec un -carcassonne.fr, www.visitecarcassonne.fr. D'ailleurs, on peut réserver donc des billets de site en ligne. Et on a à l'intérieur de la boutique des tablettes qui permettent de faire la réservation et d'imprimer son billet. Donc on a embauché 2 personnes. Comme nous sommes une SIC, nous avons des aides sur des emplois d'avenir. Donc on a travaillé avec la mission locale pour l'emploi et on a recruté 2 jeunes filles qui sont pour l'une plus que trilingue, l'autre bilingue. Voilà. Ce qui était quand même inespéré sur des profils comme ça, mais ce sont des jeunes filles qui sont très motivées et ça se passe très bien.
Autour de Carcassonne, la nouvelle agence point d'accueil tourisme dans la cité de Carcassonne, une autre façon de voyager. Et pour le découvrir de chez vous, surfez sur le site visite-carcassonne.fr.
Reportage de Nathalie Dessous pour RCF Pays d'Aude. Créé il y a près de 10 ans, le régime social des indépendants, le RSI, connaît depuis sa mise en place un certain nombre de dysfonctionnements, des bugs suffisamment nombreux pour susciter une grogne durable chez les assurés, artisans, commerçants et professions libérales. De récents mouvements de contestation ont inquiété le gouvernement qui a missionné 2 parlementaires PS, Madame Sylviane Bulteau, députée de la Vendée, et Fabrice Verdier, député de la 4e circonscription du Gard. Afin de dresser un diagnostic sur l'efficacité du RSI et proposer des réformes de ce système de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Mais comment en est-on arrivé, moins de 10 ans après sa mise en place, à devoir déjà réformer le fonctionnement du RSI ? La faute à la précipitation, selon Fabrice Verdier.
On en est arrivé là parce qu'on a fait une réforme en 2008. C'était un peu la méthode Sarkozy, la hussarde. Il fallait à tout prix afficher la volonté réformatrice sans dialogue, sans concertation, sans expérimentation, sans analyse des risques que pourrait avoir une réforme trop vite menée. Donc on avait un système informatique qui n'était pas performant, qui ne correspondait pas entre les 2 caisses, celle de l'URSSAF et du RSI, avec des personnels qui n'avaient pas été suffisamment accompagnés et qui n'avaient pas forcément non plus la même culture. Donc on a rapidement eu des difficultés liées à la déficience du système informatique, au fait que ben, on avait cloisonné entre l'URSSAF et le RSI. Et donc, on a fait de cette réforme mal préparée, mal pilotée aussi, un certain nombre d'erreurs qui ont conduit des artisans à ne plus comprendre pourquoi ils payaient, ce qu'ils payaient, à créer vraiment une rébellion que je peux comprendre contre un régime qui est quand même là pour les protéger, qui est là pour leur délivrer une retraite, qui est vraiment un régime de solidarité sociale. La leçon, c'est que les réformes, oui, mais il faut qu'elles soient intelligentes et qu'elles s'inscrivent dans le temps.
À la précipitation, Fabrice Verdier propose du temps pour réparer le passé. Sa méthode, d'abord un rapport d'étape au 30 mai, puis formuler des propositions cohérentes à la mi-septembre.
Il y a eu une réforme en 2008 qui parlait d'interlocuteur social unique. Et bien, ça n'a pas marché pour différentes raisons. Parce que d'abord, il y a le RSI qui gère et puis l'URSSAF. Et puis, il y a un système informatique qui n'est pas performant. En tout cas, il y a des centaines, voire des milliers d'artisans qui se plaignent d'erreurs dans les cotisations, d'absence d'interlocuteurs, de difficultés à joindre le RSI, de courriers parfois contradictoires, qui ne viennent pas de la même personne. Donc vraiment, il y a un malaise profond des indépendants vis-à-vis de leur régime, une défiance, qui nous a amenés à demander à pouvoir réfléchir sur cette question pour faire des propositions de court et de moyen terme. Je dois faire avec ma collègue Sylviane Bulteau des propositions pour améliorer de façon très rapide le fonctionnement, la transparence et la réactivité que peut avoir le RSI vis-à-vis des artisans. Donc on est dans du court et moyen terme. Il faut que d'ici un an, ces mesures puissent donner leurs premiers effets et que les artisans puissent dire dans un an, bon, franchement, ça va nettement mieux. C'est beaucoup plus facile de joindre le RSI. Je sais vraiment ce que je paie, ce que ça me donne comme droit. Parce que certes, il y a des cotisations, mais il y a aussi des prestations qui sont délivrées. C'est un régime qui délivre 17 milliards d'euros de prestations et pourtant il n'y a que 11 milliards d'euros de cotisations. Donc je pense que trop d'artisans encore ignorent ce déséquilibre qu'il faut qu'il y ait en face, peut-être sur la feuille qu'ils recevront, la réalité du régime et puis les droits que ça leur confère. Et puis il y aura une deuxième étape le 15 septembre où on présentera des scénarios de réformes beaucoup plus structurelles, qui consiste en trois hypothèses. C'est un statu quo avec une amélioration profonde du système actuel. Une deuxième où on réfléchit peut-être à un rapprochement avec tout ou partie du régime général. Et une dernière hypothèse, un dernier scénario qui consisterait à un rapprochement avec la mutualité sociale agricole pour créer un grand régime social des non-salariés, puisque les agriculteurs ne sont pas non plus salariés.
Vous voulez prendre votre temps ?
Moi, de toute façon, si je propose des réformes de grande ampleur, structurelles, je ne les proposerai que s'il y a un calendrier précis qui s'inscrit dans la durée, en s'assurant qu'il y a un pilotage global de tous les acteurs pour le faire, avec chaque fois des points d'étape, avec peut-être des points d'étape qui consisteront à une expérimentation à l'échelle d'une caisse. Mais en aucun cas, je serai celui qui considérera qu'on peut inventer un régime idéal au 1er janvier 2017. La démagogie, ça suffit. Il faut tenir compte des erreurs du passé. Et le but de ma mission, c'est justement de réparer les erreurs du passé.
Dès le 27 avril, le député du Gard organisera une série d'auditions avec les caisses régionales, les caisses locales et les usagers du RSI afin de recueillir témoignages et propositions. C'était un sujet envoyé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte pour le carnet de région. Presque un mois déjà que Cédric et Cynthia arpentent les routes cévenoles, tous les deux étudiants en master. Ils réalisent leur stage au sein de l'association Culture et Territoire Rural, présidée par Michel Langlois. C'est une association qui a pour but la valorisation du patrimoine. Séduit par le contexte et par la toute récente nomination au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'Écosse et des Cévennes, les deux étudiants font un travail d'enquête et d'inventaire auprès des populations locales. Mais pour quel objectif ?
L'objectif, c'est de sensibiliser les habitants à leur patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qu'on a reçu, ce qu'on aime, ce dont on est fier et ce que l'on veut transmettre. Et dans cette logique-là, on comprend que les gens sont fiers de leur patrimoine, mais peut-être qu'ils sont un peu timides et ne voient pas vraiment l'aboutissement de tout ça. Pourquoi transmettre ? Il y a une espèce de quant à soi, et on n'ose pas, on n'est pas, on ne voit pas l'objectif. Notre but, c'est de leur montrer que le patrimoine a aussi de l'avenir et que ça peut apporter des clés pour évoluer dans le futur.
Voilà, donc normalement, le premier week-end de juillet, on organise un événement de sensibilisation au patrimoine. Donc une après-midi à Notre-Dame, une après-midi à Saint-André, où on va restituer un peu les résultats du stage, mais aussi faire un moment convivial, une visite guidée, des expositions photos, parler un peu des anecdotes qu'on a reçues. Et
plus largement, c'est un week-end de valorisation du patrimoine avec des activités pour les enfants, pour les parents, entrée libre, un moment convivial, comme l'a dit Cynthia. Et c'est l'occasion aussi de présenter un livret sur la commune de Notre-Dame, un livret sur la commune de Saint-André qu'on est en train de concevoir en ce moment.
Autre objectif en ligne de mire, le lien social et l'intergénérationnel que veulent mettre en avant Cédric et Cynthia.
C'est complètement l'objectif, au point que dans l'enquête qu'on mène auprès des habitants, la question des néo-sévenols est évoquée. Les néo-sévenols ont une envie de connaître l'histoire et de s'intégrer aussi. Et connaître le patrimoine, c'est un moyen de s'intégrer. Avec les anciens, on met en place un travail qui prend du temps, qui est de les faire parler. Et parler, raconter, c'est pas évident. C'est pour ça que vivre pendant le stage, vivre ici, c'est un bon point, parce que ça nous permet de nous faire connaître.
Et les résultats de l'enquête seront donc connus au mois de juillet prochain. Un reportage de Rémi Goujon pour Radio Escapade. Les quartiers de Montpellier à l'heure de la démocratie participative, c'est le but des futurs conseils de quartier. Ils seront 7, composés de 2 collèges, un collège d'habitants tirés au sort et un collège d'associations. En tout, 280 Montpelliérains siégeront avec un budget propre et totale indépendance vis-à-vis de la municipalité. Ces conseils de quartier établiront des projets, puis les présenteront à la mairie. Seuls les dossiers sérieux aboutiront pour Gérard Castres, adjoint au maire à la démocratie de proximité, au micro de Romain Bercher de RCF Hérault.
Elles seront bien sûr étudiées, il faut bien sûr qu'elles soient quand même réalisables. On peut partir sur des rêves, mais il faut pouvoir réaliser les rêves. Donc en fait, on va essayer de faire déjà des choses qui vont être concrètes.
C'est-à-dire ça peut être des aménagements sur la route
Ça peut être des pistes cyclables, ça peut être des aménagements de terrain de boule dans des quartiers où on a besoin peut-être de trouver un terrain convivial pour les gens, ça peut être peut-être le réaménagement d'une salle. Ça, on laisse le libre choix à l'imagination des présidents du conseil du quartier. On demande, si vous voulez, de sortir un petit peu du traditionnel, de ce que l'on fait nous dans la mairie par nos obligations. Mais là, il faut que ce soit un peu le rêve des gens, le rêve des quartiers, parce que ce sont eux qui vivent dans le quartier. Et je pense que le quartier du Maçon n'aura pas les mêmes besoins que le quartier des Beaux-Arts ou le quartier d'Estavan-le-Maçon. Si on voit déjà le peu d'envouement les gens pour aller voter, je me dis, est-ce qu'ils vont prendre justement la responsabilité de venir encore travailler pour un conseil de quartier? Moi, c'est le point d'interrogation. J'espère. J'espère que les gens sont conscients qu'on n'est pas là pour essayer de les fliquer ou de les suivre, mais de leur laisser vraiment s'exprimer librement. Voilà. Donc on espère que ça va leur donner envie, et peut-être pourquoi pas après, de venir prendre la place. Ça, moi, en plus, moi, à mon âge, je vais partir, donc il n'y a pas de problème. C'est le jeu, chacun son tour. J'étais, moi, à l'époque, président de comité de quartier, et j'étais dans les conseils du quartier. Je voyais dans cette fonction vraiment la liberté d'expression totale, de pouvoir le faire. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, justement, le politique dirigeait, pour des raisons qui leur étaient propres. Je ne fais pas le procès. Quand j'ai accepté cette mission, je me suis dit, si je la fais, il ne faut pas s'initier dans les conseils du quartier. Il faut les laisser libres, avec les erreurs qu'ils peuvent faire. C'est à nous, après, de leur expliquer que ça, ce n'est pas réalisable.
Mise en place de ces conseils le 22 mai. Ils se réuniront 4 fois par an. C'est donc la fin de ce carnet de région, magazine collaboratif et hebdomadaire proposé par les différentes radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Merci aux radios qui ont participé à son élaboration. Radio Aviva, Radio RCF Pays d'Aude, Radio Grille Ouverte, Radio Escapade, Radio RCF Maguelone Hérault et Radio Intervalle à la réalisation. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres reportages. Au revoir et à bientôt.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.